Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, Fabien Ruiz, qui est Dr. Jekyll et Dr. Mr. Hyde à côté en Espagne, ça c'est un jingle.
Écoutez Kevin De Bruyne dans Zone Mix qui
en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Humblement, j'avais pas son niveau ni son talent, mais moi j'avais le syndrome Griezmann.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Kevin Diaz est là ce soir, Walid Acharchour et Elton Mokolo, la deuxième heure de Génération After sur RMC. L'After vient à partir de 22h, bien sûr, avec Gilbert, Daniel, Flo Gautreau et Jimmy Brown qui seront là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Et puis n'oubliez pas également le nouveau rendez-vous de la rentrée sur RMC, les nuits du Casar enchaîné. De plus en plus nombreux, écoutez Julien et JC Drouet de minuit à 1h30 du matin. Alors, avant de parler de l'équipe de France, petite mise au point de la direction de l'OL aujourd'hui sur la fin du mercato. Mathieu Louis-Jean était en conférence de presse. Il a donné son sentiment sur la dernière heure du mercato lyonnais qu'on a évoqué ici depuis lundi soir 20h, à savoir le seul Satriano sur le front de l'attaque avec Molébé sur lequel on mise visiblement. Mais alors qu'on nous avait annoncé deux recrues en plus dans les dernières heures du mercato, dernière minute, rien n'est arrivé. Il s'est expliqué aujourd'hui, Mathieu Louis-Jean, écoutez.
La dernière journée nous laisse un goût amer parce que voilà, on aurait aimé faire au moins un attaquant supplémentaire, on n'a pas pu le faire. On s'est donné des objectifs financiers et sportifs et honnêtement, la target qu'on voulait, on n'a pas pu la faire pour voilà des raisons qui sont liées au marché, qui sont liées au contrat. Donc bien sûr qu'on était très déçus, mais on voulait pas non plus prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Donc voilà, avec le coach, avec la direction, on s'est posé longuement, qu'est-ce qu'on fait, et on a décidé de rester comme ça. Il y a Martin qui est arrivé aussi, donc bien sûr qu'il y a un attaquant, mais tous les joueurs qui sont arrivés vont amener leur plus-value dans ce qu'on recherche, parce que les critères étaient importants aussi au poste. C'est une première étape. Tous les joueurs qui sont arrivés, pour nous, sont des joueurs qui vont amener une vraie plus-value au club.
Voilà, on est convaincu pour l'instant, en tout cas, à peu près des contours de l'effectif.
Il y a un mea culpa, là,
la contrainte financière.
Dans quel sens ?
Il y a un petit mea culpa sur le fait que la dernière journée lui laisse un goût amer, qu'ils n'ont pas réussi à boucler un numéro 9 supplémentaire.
Mea culpa, il dit. Ouais, on a essayé, oui, malheureusement, on n'a pas réussi.
C'est pas un mea culpa, ça voudrait dire qu'il s'excuse. Bah, là, c'est une explication.
Ah non, par contre, il y a beaucoup de transparence et j'aime beaucoup la transparence de Mathieu Louis-Jean.
D'ailleurs, les présidents et directeurs devraient le faire.
Ouais, et comme Gerlinger l'a fait aussi, c'était très bien dans son introduction. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il nous explique à juste titre que la dernière journée aurait dû être différente.
Qu'il aurait dû anticiper en tout cas.
Moi c'est comme ça que je le lis.
Enfin, anticiper, on l'a dit tout l'été sur Génération After, sur After. Le marché des neufs était très compliqué. C'était un marché qui était sinistré, où il y avait très peu de joueurs disponibles. Et le fait est que Lyon, avec sa surface financière qui était limitée, a subi le marché. Pas plus, pas moins.
Moi je pense que c'est plus facile de se faire prêter un numéro 9 que d'acheter un numéro 9.
Se faire prêter, mais tu le fais comment?
Tu le fais comment? En anticipant. Mais je vais pas refaire ce que j'ai dit sur les trois dernières émissions.
T'as fait ça.
Oui, mais Satriano n'était pas suffisant. Bon. Parce que Satriano déjà devait venir avec Mikotadze.
Écoutons, tu parlais dans pas un instant, Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL,
aussi,
qui était là aussi. Il a expliqué que Lyon n'excluait pas de recruter également cette saison. Écoutez.
Pour moi, on verra en janvier, pas seulement pour les ventes, mais aussi pour les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre comme ça dans l'encadrement de la DNCG pour avoir la possibilité de réagir en janvier. Il y a toujours des risques aussi financiers. Il y a des partenaires qui font faillite, qui payent pas. Il y a des autres clubs qui font faillite, qui payent pas. On va pas prendre les mêmes risques que l'année dernière. C'est plus jamais. Avec nous, ça se passe pas. Parce que là, ce qu'on a vécu pour un an, mais non, c'était trop difficile à gérer avec l'UEFA, avec la DNCG. On veut aller au rendez-vous de la DNCG avec la certitude qu'on va survivre.
Moi, je suis supporter de l'OL ce soir. Je suis très heureux d'entendre ça.
Moi, je suis rassuré. Ouais.
Parce que là, tu dis club bien géré, bien pensé. Il y a peut-être ce raté, effectivement, une dernière minute du mercato. Mais maintenant, on a dit les risques, c'est terminé. On doit.
Moi, ça, c'est très bien.
Si on fait 7e de Ligue 1, c'est pas dramatique. On est déjà miraculé d'être là.
Oui, il nous rappelle le fait que le priorité, principal, c'était l'aspect
santé financière.
C'est top comme quand il y a des gens comme ça qui semblent avoir la tête.
Attention, c'est un boss, lui. Hein.
Ouais, il est passé par le Bayern.
Il est resté plus d'une dizaine d'années au Bayern.
Non,
tu as pas la tête pensante du Bayern sur la dernière saison.
On voit que c'est quelqu'un de compétent, de très clair, de très précis. Par contre, on peut quand même, enfin, en tout cas, moi, je l'entendais parler et je le sais bien sûr, mais tu quand même, ça te saute au visage quand même la réalité du football français aujourd'hui, quoi. Le mec te dit on est l'Olympique Lyonnais et là en fait c'est ce que je dis depuis trois semaines, on n'est plus un club de foot, on est une entreprise d'experts comptables qui est là pour respecter.
Oui, mais à ceci près que Lyon c'est encore un cas particulier
avec Textor,
avec c'est un jeune Textor qui a acheté un club qu'il ne pouvait pas acheter en réalité. Bien donc sûr. C'est un facteur aggravant, c'est pas uniquement la perte des droits télé.
Quand tu mets à ça le destin des Girondins de Bordeaux, le destin d'un
pareil Gérard Lopez, c'est un cas à part.
Mais peu importe, il y a quand même beaucoup de cas à part.
Là, c'est un problème de régulation en tout cas, de surveillance des acheteurs.
Le football français est quand même là dans un marasme où quand t'entends.
Non, mais il a raison, Nico, c'est à dissocier.
Ah non, pour moi, c'est la même chose.
Avec deux personnes qui ont fait n'importe quoi et.
Mais qui leur a permis de venir?
Ah, bah c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Français, c'est ce que je te dis. Toi, tu parles des droits TV et de la crise financière que.
Je ne parle pas des droits TV, je parle de la situation globale du football français.
Lyon, c'est encore particulier, effectivement. Ouais. David Guzman te dirait ici, effectivement, il faut plus être précis, pointilleux sur les repreneurs de clubs en difficulté.
Ok, mais on est d'accord comme Lyon, que ce n'était même pas le repreneur qui était le favori de celui qui a vendu, ou en tout cas de ceux qui ont vendu. C'est-à-dire que c'est une banque qui a décidé qui allait reprendre sur des. Sur des faits ou basés sur des choses qui se sont avérées complètement erronées ou en tout cas complètement négatives finalement pour le club. Donc je te dis, aujourd'hui, on est quand même, tu te rends compte, t'es supporter lyonnais et c'est normal, mais tu te dois te réjouir qu'un bien dirigeant tienne ce discours. Tu aurais montré ce discours il y a 3 ans à un supporter lyonnais, il t'aurait dit ça c'est ce que va dire ton dirigeant à l'été 2025. Il t'aurait dit non mais là on est dans un truc qui va jamais arriver quoi.
Mais bon, en même temps, précise également, je donne la parole à Elton aussi, il a réussi un truc assez phénoménal à Lyon, il a réduit la masse salariale de 50%, de 170 à 80 millions d'euros. C'est déjà une énorme prouesse également. Et aujourd'hui, en plus, il y a un très bon début de saison. Sur un tout début de saison, on va voir.
Pour moi, il y a deux informations qui sont très importantes. Tu l'as évoqué en premier. Donc, une rigueur financière qui est nécessaire. Une austérité nécessaire pour le projet Olympique Lyonnais et même pour l'institution. Et aussi une forme de carotte pour le groupe, pour Fonseca. À savoir, les gars, travailler sur le terrain, on se laisse la possibilité de faire quelque chose. Et donc, pour moi, ça doit servir de stimulant pour la saison sportive de l'Olympique Lyonnais. Parce que, encore une fois, entre ce que t'as fait, la pré-saison, le début de saison, tu dois pas, entre guillemets, faire profil bas. Encore plus après la victoire contre l'Olympique de Marseille et sur le mois d'hiver, enfin, sur le mois de janvier, sur le mois, même fin janvier, t'auras la possibilité de te renforcer sportivement.
Bon, il y a un petit matelas. Hein. Il n'a pas dit qu'il y avait 30 millions d'euros à investir au mois de janvier.
Je te dis pas ça.
Mais déjà, ils ont un matelas pour faire quelques
ajustements. Il n'a pas fermé la porte aussi à un moment donné. Un potentiel renfort.
C'est ça, à un moment donné, on va se retrouver sportif.
Exactement.
Et moi, ce qui est ultra positif surtout, c'est que tu as vraiment l'impression que la compétence est revenue du côté de l'Olympique Lyonnais avec Michel Kang, avec Gerlinger, avec Mathieu Lujan.
C'est le début d'une nouvelle histoire, en fait.
Même si moi, j'ai critiqué sur le dernier jour. Passons au-delà de
toi, tu as critiqué?
Oui. Je dis les choses, je dis ce que je pense.
Est-ce que c'est dans la salle d'attente par rapport à
l'Olympique Lyonnais? Non, je l'ai expliqué hier. Moi, je suis dans une saison bonus pour l'Olympique Lyonnais, avec encore une fois la volonté déjà d'assainir les comptes financiers.
Saison bonus.
J'ai le droit de donner mon avis quand même. Si
du coup, tu n'es pas dans la salle d'attente, tu es chez le comptable.
Exactement. Moi, je suis du côté de l'Olympique Lyonnais. Je suis dans la saison bonus, c'est-à-dire que.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est une saison bonus, c'est-à-dire que si l'Olympique Lyonnais peut aller le plus haut possible en Ligue 1, c'est très très bien. C'est très très bien avec la compétence de Fonseca notamment, mais par rapport à leur effectif, par rapport à leur manque notamment devant, offensivement et même à la densité d'effectifs par rapport à d'autres équipes, pour moi, je n'ai pas la même exigence que sur d'autres clubs.
Tu peux pas laisser passer ça.
Je sais pas. On a déjà fait le débat hier, Elton.
Parce que 8 matchs sur 10.
T'es en retard, en fait.
Je suis en retard.
On va partir les émissions d'hier ou d'avant-hier.
Mais 8 matchs sur 10, ils seront en possibilité de gagner des matchs.
Non, pas 8 matchs sur 10, pas dans mon esprit.
On va lister les matchs et tout.
Pas dans mon esprit. Pas dans une saison où tu as une Europa League, où tu vas devoir jouer 2 matchs par semaine, où tu es.
Jouer 2 matchs par semaine.
Elton, on l'a dit hier, t'as une profondeur de banc quand même qui est un peu flippante.
2 matchs par semaine où tu as des joueurs que tu ne connaissais même pas il y a 2 semaines, Elton Mokolo. T'as pas de profondeur de banc, tu n'es pas sujet à une potentielle blessure d'un joueur très important comme Tolisso, comme Malik Fofana, comme Niakate. Je te dis qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai en magasin sur d'autres équipes de Ligue 1, notamment l'Olympique de Marseille, notamment Monaco, notamment Lille, même Rennes, même Strasbourg, en termes de solutions pour le coach, je te dis que l'Olympique Lyonnais, je te dis pas que l'Olympique Lyonnais ne va pas le faire. Moi, je l'ai dit hier, si Fonseca fait un podium, c'est un exploit. c'est un exploit. C'est mon avis. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Tu pourras développer le tien. Si pour toi, tu les attends top pro, top 4. Bah c'est ton livre. C'est ton football.
C'est envisageable. Non, mais c'est pas insultant.
J'ai pas
dire
dit
ça.
Que c'était pas envisageable. Bah oui. J'ai dit que moi, dans mon esprit, la priorité pour l'Olympique Lyonnais, c'est de faire progresser les joueurs. C'est d'aujourd'hui retrouver une sérénité club, de travailler dans la sérénité. Et derrière, c'est pour moi une saison de transition.
Adem, 32-16 est avec nous, supporter de l'OL. Adem, bonsoir.
Il y a beaucoup de clubs qui ont réussi à aller chercher le meilleur comme ça.
Adem. Bonsoir Adem, bienvenue sur RMC dans Génération After.
Adem. Bonsoir.
Bon, qu'est-ce que quand tu écoutes la conférence de presse là, le binôme Louis-Jean Gallinger, est-ce que tu es serein, tu es fier de la façon de communiquer et de la façon dont ils bossent surtout?
Mais bien sûr, parce que faut déjà, encore une fois, ils l'ont déjà dit, ils l'ont déjà fait. Faut se rappeler d'où on vient. On était là dans un lit d'hôpital avec une clip à la figure pour essayer de nous faire respirer. Et aujourd'hui, on est deuxième de Ligue 1 et ça montre qu'ils ont travaillé de manière exceptionnelle, surtout que au moment où déjà les clubs commençaient déjà à leur mercato, nous on n'était même pas sûr d'être en Ligue 1 la saison prochaine, cette saison. Donc on a pris beaucoup de retard, comme l'a dit Gerlinger, et on avait besoin d'assainir nos finances déjà devant la DNCG et aussi devant l'UEFA. Donc oui, je suis très satisfait parce que encore une fois, quand on laisse des gens compétents travailler un Johnny Textor, on voit que ça marche. On voit que ça marche, qu'il y a des bons coups qui ont été réalisés. Moi, j'aime beaucoup Tyler Morton, par exemple, qui est le symbole un petit peu de ce recrutement, qui a une qualité footballistique assez démentielle, qui saute aux yeux. Et puis même le retour au premier plan de notre centre de formation, ce qui a fait notre fierté pendant des années et des années aussi, avec Radis Mera. Et ce qui montre aussi que notre centre de formation n'est pas mort. Donc oui, je suis très...
Mais ça, après, on va être prudent quand même, parce que Tyler Morton fait un très bon début de saison. Il n'y a aucun problème, on l'a dit sur tous les plateaux télé. Il faut être
prudent avec Lyon.
Non, mais Khalis Mera fait une très très grande prépa. Mais là, tu prends quand même deux exemples où sur le centre de formation, moi, quid de Molébé, notamment, et les jeunes qui vont arriver derrière offensivement. Et sur les belles recrues, pour l'instant, j'en vois une, c'est Tyler Morton. Maintenant, le reste, Schulk, Karabek, j'attends de voir sur la durée en Ligue Europa et en Ligue 1. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, j'ai pas été ébloui par ces deux profils-là. Et surtout, sur les cadres, je répète, sur les cadres, tu ne dois pas oublier qu'un Malik Fofana s'est blessé toute la deuxième partie de saison l'an dernier, que c'est un joueur qui est fragile, que Tolisso va enchaîner sa deuxième saison de très très haut niveau avec une responsabilité monstre parce que t'as une équipe avec et sans Tolisso. Donc moi, j'ai envie quand même d'être prudent envers l'Olympique Lyonnais.
Et indulgent surtout.
Et surtout indulgent.
Oui, c'est ça.
Bien sûr, il faut être prudent, indulgent. Mais quand tu vois, moi je parle en qualité, après je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, bien sûr. Mais en termes de qualité, pour l'instant, pure, Morton et Mera, pour l'instant, ils apportent satisfaction. Après, pour les autres recrues, je suis plus prudent, comme tu l'as dit, Walid. Karabek, il a montré, pour moi, j'ai été plutôt satisfait de son match contre Marseille. Je vais voir dans la durée. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas, on va voir. Mais faut voir. Mais de toute façon, on a réussi en plus de ça à garder des cadres, justement comme Tolisso, comme Tagliafico qui a quand même baissé son salaire par deux quasiment pour rester.
Ton côté droit.
Voilà.
Derrière Maitland Niles, t'as qui?
Mata qui peut jouer.
Je pense que dans sa tête, ça va être Mata.
Si ton troisième central, si Mata va à droite, c'est qui? Kluivert?
Ça va être Kluivert, malheureusement. Bah, Kluivert, je sais pas trop ce que ça vaut.
On peut pas dire malheureusement, on l'a pas encore vu.
Ouais, on l'a pas malheureusement. On l'a pas encore vu. Après, il y a aussi Théo Marizic jeune.
Mais là, maintenant. Mais donc là, par exemple, demain, mettons-nous en situation. Sur une équipe de rotation, en tout cas, une équipe à prime. Pour un match de Ligue 1 post Ligue Europa ou un match de Ligue Europa avant une échéance en Ligue 1, ça ressemblerait à quoi l'Olympique Lyonnais?
Griff dans les buts, Mata à droite, à gauche, ça dépend. Amner Tagliafico,
qui a pas lancé sa saison.
Faut voir ce que ça donne. Ça dépend aussi comment lui il part en fait. Parce que
au milieu de terrain, le double pivot, tu mets qui? Donc là, t'as Morton, Tesman. Si tu veux faire soulager un des deux, qu'est-ce que tu fais?
Bah tu mets Mera et tu mets Mera,
mais
il y a les jeunes. En fait,
ouais, il y a les jeunes, d'accord. Bon, on va quand même attendre. Bon, je vais quand même attendre.
Aussi savoir si le club, le centre de formation de Lyon est toujours aussi performant. Ça aussi, donc on va attendre.
Pour moi, c'est un miracle pour Fonseca qui fait podium. Je persiste.
Merci, Adem.
Bien sûr, bien sûr. Mais on a plus le choix maintenant d'essayer d'avoir une place européenne, rien qu'au niveau des finances.
Tout à fait.
Faut limiter la casse avant janvier.
Adem, merci d'être venu dans Génération After. Tu reviens quand tu veux, évidemment.
Et t'as les 9
17
points,
ans, Adem, je crois. 17 ans.
Très, très bon, Adem. À chaque fois qu'il appelle, il est très bon.
Oui, il est excellent.
Allez, à très vite, Adem.
Juste une dernière question, Nico. Tu les vois combien, toi, en fin de saison, Elton, Lyon?
Je les vois combien?
Ouais.
Je vois dans le top 6.
D'accord,
dans le top 6. D'accord, c'est dit. Allez.
6e?
Exactement.
C'est enregistré. Okay. Voilà.
Sixième de Ligue 1.
Elton, justement, la parole. Vous écoutez RMC, Génération After, 21h17. On parle de l'équipe de France. Je vous rappelle que on vivra sur RMC vendredi soir. Match de qualif pour le Mondial 2026. Ukraine-France en Pologne. Et mardi prochain, France-Islande au Parc des Princes. Mbappé, 3 buts.
En fait...
Oui. Alors, si je ne t'intéresse pas, moi je vais
reprendre. Je voulais te reprendre.
Ah bon?
Mais finalement, c'est pas.
Je vais reprendre sur quoi, Walid?
Finalement, c'est pas une bonne chose.
Ah ouais?
D'accord. Mbappé.
J'ai hâte de voir les Bleus. C'est ce que je voulais dire.
On va écouter l'avis d'Elton. Mbappé, 3 matchs, 3 buts en grande forme dans le tout début de saison avec le Real Madrid. C'est une aubaine pour l'équipe de France. Jingle, Elton.
C'est un match contre. C'est ça, ouais, compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut
profiter. Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps, alors laisse-moi comprendre l'expression.
Le tic-tac, tic-tac.
Ah, tic-tac, tic-tac, quoi, qui peut.
Ouais, ouais, c'est ça.
Je m'en souviens même pas de ça, bref.
C'était avant Inter-Fluminense.
La Coupe du Monde des clubs, d'accord.
Et l'Inter avait perdu justement sur ce match compte à rebours. Bon. 2-0.
Alors, évidemment, c'est une aubaine pour les Bleus, Mbappé en grande forme dans ce début de saison.
Bah oui, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que tout va bien dans le meilleur des mondes pour Kylian Mbappé, qui est déjà meilleur buteur de Liga. Cet après-midi, on a appris qu'il était dans la liste des meilleurs joueurs du mois d'août avec évidemment Lamine Yamal, Nico Williams et Nicolas Pépé. Donc, à la différence de la saison dernière, Kylian Mbappé a bien lancé sa saison. Et moi, là où je voulais davantage m'attarder, et c'est pour ça que pour moi, c'est l'intitulé, notamment de mon avis tranché, que l'état de forme étincelant de Kylian Mbappé était une aubaine pour l'équipe de France et qu'il faut regarder dans le rétro et les deux dernières saisons, les deux dernières rentrées de Kylian Mbappé. À l'été 2023, il avait été impacté par sa situation avec le PSG où il avait été à un moment donné dans le loft. Ça avait coïncidé avec quoi? Avec un match contre l'Irlande que j'avais pas trouvé bon. S'en était suivi une blessure contre l'Allemagne où il était pas là à Dortmund. L'été suivant, il y avait le fameux match contre l'Italie après son transfert au Real Madrid où clairement il voulait pas être là. Et donc ça avait conditionné son match contre l'Italie où il était passé complètement à côté et était remplaçant face à la Belgique. Et là, cette saison, on a un Kylian Mbappé qui est définitivement adapté au Real Madrid, qui est l'un des fers de lance, si ce n'est le fer de lance de cette équipe, qui est bien plus impliqué sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, ce qui nous intéresse, c'est un Kylian Mbappé qui est buteur, qui est protagoniste et même sans ballon, qui fait des efforts. Et moi, je me dis que c'est une aubaine pour l'équipe de France parce que là, on va avoir un Kylian Mbappé qui est dans des prédispositions qui, pour moi, sont bien meilleures que les deux étés précédents et que ça peut servir l'équipe de France dans la mesure où, cette fois-ci, l'état de forme de Kylian Mbappé, qui est bien meilleur que sur les deux dernières années, et dans un secteur offensif où justement l'équipe de France, à la différence des deux dernières saisons, arrive avec beaucoup de choses très intéressantes, très positives, avec notamment les Parisiens, que ce soit Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, faudra voir son état physique, Marcus Thuram, Walid va en parler tout à l'heure, donc demain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kylian Mbappé, qui à la différence des étés précédents, on avait le sentiment que c'était le seul espoir offensif de l'équipe de France, là il va pouvoir compter sur les copains de l'équipe de France, en même temps capitaliser sur une bonne forme. Et dans les deux prochains matchs qui vont arriver, donc face à l'Ukraine, face à l'Islande, moi j'ai un Kylian Mbappé qui peut être un joueur décisif déjà. Bon, ça c'est pas une surprise, mais surtout un joueur qui peut nous amener des choses très intéressantes dans un rôle. Dans un rôle où en équipe de France, il doit encore s'acclimater. Et pour moi, ça va être un enjeu fondamental, ou plutôt le fil rouge dans une saison Coupe du Monde, c'est comment Kylian Mbappé va s'acclimater dans ce rôle qu'il est en train d'apprivoiser au Real Madrid et comment ça va se transposer en équipe de France où il nous a parfois déçus, même beaucoup déçus. Donc pour moi, j'aime bien voir l'état de forme de Kylian Mbappé étincelant et j'ai envie de le voir en équipe de France.
Bon, j'imagine que vous partagez également cet avis, les amis.
Oui, oui, il est en grande forme, il fait un très très bon début de saison. De toute façon, moi je l'ai déjà répété dans plusieurs émissions. Kylian Mbappé est à la croisée des chemins dans sa carrière cette année. Avec
Dit, c'est la saison la plus importante de sa
carrière. Avec un virage très très important, parce qu'il peut gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, donc la Ligue des Champions qui lui manque dans son palmarès. Et surtout, il y a une Coupe du Monde en 2026 qui va être le Big Bang Foot cette année. Et il joue pour moi dans cette compétition pour être le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition, pour essayer d'aller concurrencer Pelé en faisant ces trois finales de suite de Coupe du Monde. Déjà qu'il a marqué de son empreinte la première, la deuxième avec ce triplé en finale de Coupe du Monde. S'il va chercher, s'il va chercher une troisième finale,
il était blessé.
Exactement. S'il va chercher une troisième finale à 27 ans, avant que Zidane arrive, ce serait extraordinaire. Surtout aux États-Unis, en plus avec tout ce que ça représente pour lui dans sa culture, dans ce qu'il veut dégager en termes de communication. Donc là, moi, je l'ai vu. Hein, il est armé pour véritablement fermer des bouches. Parce que sa saison dernière a été catastrophique, hein, faut pas l'oublier. C'est terminé par une Coupe du Monde des clubs où il a morflé physiquement et il a pris un 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Donc oui, on attend ce Mbappé là, on attend ce Mbappé avec impatience. Maintenant, ce qui est intéressant, et là c'est le deuxième tiroir de ton argument qui est très pertinent, Elton, c'est que sa place en équipe de France. Et moi, je reste quand même sur un goût d'inachevé sur le dernier rassemblement où il marque ce but contre l'Allemagne, mais il fait une première mi-temps qui est cataclysmique. Son match contre l'Espagne n'est pas bon du tout. Et moi, J'ai encore l'impression que Kylian Mbappé en équipe de France, tu sais, avec les nouveaux créateurs qui arrivent, qu'il veuille encore montrer que non, moi aussi je sais créer le jeu, je veux aussi dézonner, moi aussi
tu
comme
qui, Cherki, ah, mais non, Youch,
moi aussi,
Doué,
moi aussi comme vous là, les Michael Olysée, les Cherki, les Doué, moi aussi je peux dézonner, je peux faire la passe cachée, je peux être créateur. Et je pense qu'on va encore refaire des débats là-dessus. On en avait déjà fait après l'Espagne. Alors que Kylian Mbappé, il va falloir qu'il soit ce joueur supérieur en équipe de France, mais dans ce rôle pour faire gagner les matchs. Et qu'à un moment donné, il va falloir respecter son rôle, parce qu'il y a d'autres joueurs comme Michael Olise qui est un leader technique au Bayern Munich. Je vais pas tous les faire, mais Ousmane Dembélé qui va être Ballon d'Or, voilà, ainsi de suite. Chacun va avoir son rôle, et comment Deschamps va définir cette animation offensive, répartir les tâches, et comment Kylian Mbappé va incarner tout ça. Et ça, permettez-moi de douter de tout cet emballage.
Deschamps définir une animation offensive,
ça fait partie des grosses questions, même si j'ai ma réponse. Mais je te dis que ce fameux 4-2-3-1, où est-ce qu'on met Mbappé? 9. Parce que moi, je l'ai vu au Real Madrid, ouais, sur le début de saison. Le match, c'était contre Mallorca. Non, le 1-0 là,
Osasuna,
où à droite il est monstrueux, il fait des différences à droite,
avec Kevin,
où il est monstrueux. Il y a un match notamment contre l'Autriche au dernier Euro où c'est peut-être sa meilleure action. Il va chercher le penalty à droite. C'est-à-dire que où est-ce que Mbappé sera le meilleur en équipe de France?
Il était où à la Coupe du Monde 2018?
À droite. Donc est-ce que ce sera un 9? Est-ce que ce sera un mec à gauche? Parce qu'avec tous les débats qu'on a sur son rôle défensif, est-ce que ce sera un mec à droite? Est-ce que ce sera un mec qui sera libre? Et moi, je pense que la liberté en équipe de France avec Kylian Mbappé ne lui va pas du tout. Parce que cette anarchie footballistique ne lui va pas du tout. Toutes ces questions-là vont être très intéressantes à décrypter.
Et puis ce que tu as dit, moi je vais appuyer, c'est-à-dire que non seulement il est à la croisée des chemins, et en plus il vient de rencontrer, je pense, un entraîneur qui peut lui permettre. Alors je vais pas dire qu'il a pas réussi, mais en tout cas il a pas réussi à rester au PSG et à profiter, je pense, de tout ce que Luis Enrique pouvait lui apporter, comme on a vu dans ce fameux documentaire qui n'a pas plu à tout le monde, n'est-ce pas, Nico? Mais en tout cas aujourd'hui, avec Xavi Alonso, il va falloir qu'il apprenne.
Il n'y a plus au gogo, c'est tout.
Ouais, c'est vrai. Au naïf. Il va falloir qu'il apprenne à jouer son rôle. Tout à l'heure, j'entendais justement peut-être
de
ce que disait Jean-Pierre Papin sur le fait que Kylian Mbappé, il faut peut-être qu'il se cantonne entre guillemets à un rôle un peu plus
t'allais dire quoi, mais minimaliste.
Voilà, c'est ça, un peu plus minimaliste, un peu plus rigide par rapport à ce qu'il aimerait.
Ne pas surjouer, c'est ce que disait à l'instant Walid.
Rester vraiment
dans
l'axe du terrain, ou alors peut-être en équipe de France avoir un autre rôle qui, moi, pour moi, lui sied beaucoup plus, c'est-à-dire un rôle de joueur, d'attaquant de couloir, d'attaquant d'aile, qui va partir d'un côté. Alors, ça peut être à gauche, mais moi je le trouve très bon aussi à droite, où il est inarrêtable. imparable avec cette vitesse qu'il a quand il est lancé, avec cette course qui peut être diagonale, tu vois, du quatrième arbitre vers le but. Et quand il est comme ça, le gars est tout simplement inarrêtable. C'est le joueur le plus rapide du monde en mouvement. Et en plus, il arrive à maîtriser quand même souvent le cuir. Donc voilà, qu'il ait un rôle plus défini, qu'il ait un rôle peut-être plus strict, mais qui va mieux s'y à Kylian Mbappé et surtout okay. à l'équipe dans laquelle joue Kylian Mbappé.
Bon, on va écouter Jean-Pierre Papin tout à l'heure, c'est dans Rotten sans flamme justement, qui répondait à la question, peut-il devenir un grand numéro 9 Kylian Mbappé, tiens, Deschamps a parlé ce soir à nos confrères de l'équipe, il dit que oui, il est très bien Kylian Mbappé, mais surtout psychologiquement également. Voilà.
C'est ce que j'ai évoqué notamment.
C'est ce que tu disais à l'instant, ce que disait Walid aussi, il revient dans de meilleures conditions là.
Et pour moi, c'est fondamental pour expliquer la très bonne forme de Kylian Mbappé. Et encore une fois, le même Deschamps, il l'a rappelé un peu agacé en disant que pour la énième fois, Kylian Mbappé est un attaquant axial.
Donc, t'as plagié Deschamps ou c'est Deschamps qui t'a plagié?
Comment c'est
parce que vous avez dit la même chose là?
Ils ont dit la même chose, ouais. Que Deschamps a parlé après Elton.
Donc c'est
Deschamps
qui a dû écouter
Génération After.
Il a écouté la vie.
Exactement. Allez, on revient dans un instant.
C'est
la suite de Génération sur RMC. Vous pouvez nous.
L'émission qui compte,
Génération After. Les appels au 3216, Tariq arrive dans un instant. Et puis envoyez-nous vos messages sur WhatsApp au 0612-424-424. 0612-424-424. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Olivier Cherchour, Kevin Diaz, Elton Mokolo. La suite de Génération After, 21h31. Vous écoutez RMC, bien sûr. On parlait à l'instant, bien sûr, de Kylian Mbappé, qui est plus que jamais en forme. Deschamps le dit mieux physiquement, mieux psychologiquement. Je vais accueillir Tariq pour savoir ce qu'il en pense, supporter du PSG. Salut Tariq.
Salut tout le monde.
Ça va Tariq. Grand habitué d'After et de Génération, Tariq. Hein.
Ouais.
On est heureux de t'accueillir pour cette nouvelle saison. Bon.
Heureux aussi de vous retrouver, toujours vous régalez les gars.
Un peu agité quand même, non? Début de saison, non?
Un petit peu, mais c'est ça qu'on aime. Après, avec Kevin, c'est obligé que ça soit agité.
Bon, je croyais que t'allais dire avec Walid, mais...
Non. Ben, Walid, en général, il est juste. En tout cas, moi, je suis très souvent d'accord avec lui, sauf ce soir sur la vue de Kylian Mbappé, je suis d'accord avec aucun de vous autour de la table parce je trouve que vous êtes assez élogieux beaucoup trop rapidement au sujet de Kylian Mbappé et surtout pour le joueur que c'est, le joueur que ça doit être parce que il fait un début de saison, ça c'est un bon début de saison pardon, ça c'est sûr, mais quand tu regardes l'adversité qu'il a rencontré que le Real Madrid ont rencontré en Liga, ça reste des petites équipes, le Real Oviedo, Osasuna et j'ai zappé la troisième équipe. Mais je pense que vous êtes beaucoup trop élogieux pour Mallorca, voilà, le Real Mallorca. Et donc moi je trouve que c'est la normalité pour lui et même la saison dernière dans une saison où il y a l'après Paris Saint-Germain, on sait que physiquement ça c'est compliqué, tout ce qui se passait en dehors du terrain. Il marquait toujours contre les petites équipes et ça c'est quelque chose qui fera toujours pendant sa carrière.
Mais quand tu dis élogieux, Tariq, on a quand même parlé des perspectives très intéressantes de l'année de Kylian Mbappé en parlant de croiser des chemins, de virages, mais on a quand même mis aussi beaucoup de doutes en
quelques réserves,
notamment sur le questionnement.
Une tendance à surjouer.
Sur le fait de surjouer ou pas.
On t'aime bien, mais il faut que tu sortes du prisme supporter du Paris Saint-Germain là.
Il a le droit d'avoir un avis sans être forcément.
On a quand même l'impression, puisque tu m'as taquiné, je vais te taquiner. On a quand même l'impression que là, t'es sur.
Il y a encore de l'amertume.
T'es sur une petite amertume du départ d'Mbappé. Alors que si tu dis qu'on a été indulgent, alors qu'on vient de dire qu'il faut pas qu'il s'enflamme, faut pas qu'il se prenne pour un numéro 10, faut qu'il reste dans un rôle soit d'avancement, soit à la rigueur des liés droits où il a toujours été performant en équipe de France. On n'a pas dit que c'était un Mbappé qui marchait sur l'eau. On sait que
pas du tout. Quand je dis que vous avez été élogieux, c'est quand on dit que je pense que vous avez dit que c'est bon, tout va bien au Real Madrid, maintenant il a installé, etc. Moi je pense qu'il y a toujours un problème avec Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui l'entourent et moi je pense que quand il y a un Kylian Mbappé qui brille, eh ben t'auras des joueurs dont t'as besoin pour aller dans des objectifs assez forts que sont la Ligue des Champions. Un Vinicius qui soit bon autour de toi. Et moi j'ai l'impression que quand Kylian Mbappé est fort ou alors est bon, eh ben t'as un Vinicius qui est un peu plus éteint. Et moi c'est là où je pense qu'il reste dépendant des joueurs qui l'entourent. en équipe de France, ça reste autre chose parce que personne n'a pu lui prendre sa place, que ça soit des Marcus Thuram, que ça soit un Ousmane Dembélé. Il y a encore quelques temps, on faisait des débats sur un Ousmane Dembélé qui doit jouer dans l'axe. Et ça pour moi, Kylian Mbappé, il y a pas de débat.
Mais le but, Tariq, c'est quand même pas de prendre la place de Kylian Mbappé au Real ou en équipe de France, rassure-moi.
Et puis Tariq, tu te trompes de combat parce que encore une fois, l'idée c'est pas de parler de Kylian Mbappé et du prisme au Real Madrid. C'est Kylian Mbappé par rapport à sa forme au Real Madrid, ce qu'il peut apporter à l'équipe de France, ce qui est différent. Et encore une fois, Kylian Mbappé, il a droit à un traitement juste et honnête. La saison dernière, ce que tu dis en disant, ouais, il a joué que des petites équipes, la saison dernière, on l'a critiqué justement parce qu'il n'était pas bon face à ces mêmes petites équipes. Et ça, pour le coup, on ne peut pas d'un côté critiquer Kylian Mbappé parce qu'il est mauvais contre ces petites équipes, et quand il marque, quand il est décisif, quand il est pertinent, dire, enfin bon, c'est quand même facile. Donc tu vois, je pense qu'il a droit à un traitement juste équitable.
La saison dernière contre les petites équipes, moi c'est
non,
c'est
le début de saison dernière, souviens-toi tout ce qui était dit sur Kylian Mbappé
avant l'interview avec Mouloud.
Les mêmes, le match contre Mallorca, justement, pour le coup, on a un cas d'étude qui est parfait. Mallorca, ils a joué deux saisons de suite, début de saison à chaque fois. Mallorca, le premier match, il est pas bon, il a été critiqué. Là cette fois-ci, il est protagoniste, il est décisif, on le dit de la même manière que l'année dernière on disait c'était pas bon.
La saison dernière, il est plutôt bon justement contre les petites équipes. Après moi, quand je parle de grandes équipes, certes, il a marqué à chaque classico, mais que ça soit contre Liverpool, contre l'AC Milan ou d'autres équipes comme ça, des grandes équipes en Ligue des Champions, il n'a pas été bon. Et c'est là qu'on
Hormis City,
mais ça reste un 16e de finale de Ligue des Champions.
Mais de toute façon, Tariq, nous on en a parlé. Il a attendu au tournant, il a attendu à l'accueil du magasin, le petit Kylian, c'est cette année. Donc il n'y a aucun problème. Moi j'ai dit que sa saison l'année dernière n'était pas satisfaisante. Et encore plus, je t'ai dit qu'elle s'est terminée de manière catastrophique à la Coupe du Monde des clubs en termes d'image, parce qu'il a pris un 4-0 face à son ancienne équipe. Maintenant, cette année, il doit fermer des bouches. Cette année, il doit marquer l'histoire de son histoire avec le Real Madrid et continuer à marquer son histoire exceptionnelle avec l'équipe de France en Coupe du Monde, parce que pour l'instant les euros, j'ai le droit de faire la liaison,
bien sûr,
les euros ont été cataclysmiques
avec les euros, c'est très bizarre, mais
les euros ont été cataclysmiques avec l'équipe de France. Par contre, les Coupes du Monde se sont passées admirablement bien pour lui, donc il va retrouver cette essence de cette compétition et ce côté animal pour Kylian Mbappé. Maintenant, Tariq, il va falloir le prouver sur le terrain,
bien sûr,
et comme dirait l'autre, mettre un short et en équipe de France montrer son rôle de leader, montrer qu'il peut être positif pour le reste de l'équipe,
montrer qu'il peut être le joueur le 9.
Exactement. C'est des questions qu'on a quand même beaucoup posées, Tariq, depuis tout à l'heure.
La vraie question, c'est toujours la même. Quel est son vrai poste?
Écoutez, Jean-Pierre Papin, tout à l'heure dans Rotten sans flamme, peut-il devenir un grand, très grand numéro 9, Kylian Mbappé?
Lui, sa principale qualité, c'est la vitesse. La principale qualité, c'est la profondeur. Je pense qu'il n'a pas cette capacité aujourd'hui à s'arrêter et de rester là où il faut être quand on joue un attaquant. De surface, c'est-à-dire il faut être entre le point de pénalty et les 6 mètres. Et ça, je crois qu'Mbappé aujourd'hui, ça, il l'a pas intégré. Donc pour lui, je pense que c'est compliqué. Moi j'ai continué à progresser quand je suis arrivé à Milan, je n'avais aucun jeu dos au but. Et Capello m'a pris à part. Il m'a mis à chaque fois un ou deux défenseurs qui avaient pour consigne quand même de me serrer très fort pour m'obliger justement à jouer en pivot, à jouer en remise, etc. Donc je pars du principe qu'on peut toujours apprendre quoi qu'il arrive,
même quand on est ballon d'or, parce que t'étais ballon d'or quand t'arrives au Milan.
Et j'étais ballon d'or. Ouais. On peut toujours apprendre quand on a envie d'apprendre.
Voilà, c'est intéressant
c'est
ce qu'il dit.
Exactement ce qu'il dit.
Mais moi, je pense qu'il dit.
C'est très bien ce qu'il dit.
Jean-Pierre, je pense même qu'il doute que Mbappé soit capable un jour d'être un attaquant, un neuf de surface.
Moi, c'est pas ça. C'est ce qu'il vient de dire là sur ces deux dernières phrases qui, pour moi, sont, c'est le résumé de ce qu'est un sportif de haut niveau, un footballeur dans l'évolution de sa carrière ou de ce qu'elle peut être. C'est que il ne suffit pas d'avoir une marge de progression. Il faut être ouvert à l'apprentissage.
Non, mais la question, c'est.
Non, je te dis.
Est-ce qu'il a envie de le faire, mais est-ce qu'il en est capable aussi?
Non, c'est pas être capable. Tout le monde est capable de progresser. Il faut être ouvert à l'apprentissage. Et pour être ouvert à l'apprentissage, il faut être lucide sur tes qualités, mais aussi sur tes axes d'amélioration. Parce que Walid dit fermer des bouches. Ça, c'est une expression. Elle est naze, cette expression. T'as à fermer des bouches de personne, en fait. T'as juste à travailler dans ton coin et les bouches, elles vont se fermer toutes seules.
C'est une image.
Oui, mais c'est une image qu'emploie beaucoup les joueurs, tu vois. Et souvent, il y a cette image qui revient. T'es pas content, triplé. J'en ai rien à faire du triplé. Si ton triplé il vient contre Valladolid alors que ton équipe elle en a mis 7, c'est pas la même chose que triplé comme t'as fait en finale de Coupe du Monde. Et là c'était un beau triplé, même s'il y a deux pénalités,
juste
peu importe. Non mais je veux dire
que il a fermé des bouches ce jour-là, non?
Mais c'est pas la question, j'en ai rien à faire qu'il ferme des bouches. Moi, je veux qu'il progresse. Je veux qu'il se choisisse
c'est
beau, un poste.
Là, c'est fort.
Je veux qu'il choisisse voilà, un poste. Là. Je veux qu'il choisisse une animation, qu'il ait une relation avec un entraîneur qui puisse l'emmener ailleurs, comme Thierry Henry. Il s'est remis en
mais
question.
Est-ce que tu penses
j'ai toujours
que
comparé
est-ce que tu penses que
Kylian
ça va
Mbappé.
Arriver
ben, je vais finir. Je vais finir si tu me laisses 30 secondes. J'ai toujours comparé Kylian Mbappé avec Thierry Henry. Mais lui, il a toujours, j'ai l'impression, je n'ai jamais discuté avec lui, qu'il a toujours voulu se comparer à des Neymar, à des Messi, à des Ronaldo. Mais pourquoi je le compare à Henry? Parce que Henry, c'était une légende, c'est une légende dans un grand club, mais il a choisi de se remettre en question, de partir dans un club pour gagner des titres, et il s'est mis au service du collectif. Alors que lui aussi, il avait énormément de qualité, lui aussi, il avait un ego surdimensionné, mais il a compris. Et qu'est-ce qu'il te dit à chaque fois qu'il parle de Guardiola, ou à chaque fois qu'il parle du Barça? Il a effacé, il a fait reset sur tout ce que je pensais savoir sur le foot. Et pourtant, j'étais une fichue légende dans un grand championnat, dans un énorme club.
C'est beau ce que tu dis.
J'ai fait reset, je suis arrivé, j'ai mis mon humilité dans ma poche. Je me suis dit, waouh, le gars, il va me réapprendre le foot. Et aujourd'hui, il a réappris le foot. Et Mbappé doit réapprendre le foot. Il doit réapprendre son foot. Il doit réapprendre quelque chose qui est très difficile, c'est les bases du foot. Peut-être que t'as énormément de qualité. Faut que Gilbert Ribourg arrête de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ça a été peut-être le meilleur joueur du monde dans un registre, mais aujourd'hui, tu dois te mettre au service d'un grand club, d'un grand coach et d'une grande sélection comme la nôtre, c'est tout.
Silence. Est-ce qu'on n'est pas sur la plus grande intervention?
Ah non, mais là,
histoire c'est... after de Kevin. Et
je sais pas si t'as vu Nico.
Là, il nous a fait. Je sais pas. Ça y est, 3 minutes.
J'ai vécu sans direct.
Le silence après Kevin, c'était encore du Kevin.
Mais Nico, je
c'est
sais pas si tu
bizarre.
As vu.
Franchement, et je dis premier degré, je vois pas.
Non, mais Nico, je sais pas si tu as vu. Mais...
On découpe sur, pour les réseaux, s'il vous plaît.
Je sais pas si tu as vu, mais même
l'expression,
en étant.
Le fond, la forme, tout.
Même en étant 100% d'accord avec moi. Il a fallu qu'il mette un tir au début de son intervention.
C'est pour se lancer.
Exactement.
C'est des starting blocks.
Exactement. Mais voilà. cette image catastrophique de fermer des bouches. Il avait besoin. Alors que
j'ai
mon
pas
propos.
Dit catastrophe.
Alors
mais je veux te dire qu'il n'avait pas tout à fait tort non plus.
Oui, mais alors que mon propos juste avant. Mon propos juste avant était très très bon, mais il fallait quand même cibler
j'oublie
le
ça.
Problème.
Tu n'as pas existé sur la séquence.
Exactement.
C'est celle de Kevin.
D'accord.
Et Kevin a été royal.
Je te dis. Ouais. Je sentais que.
Par contre, on en fait pas trop maintenant.
C'était une séquence.
Ah ben voilà. Tu vois. Il est excellent, il pourrait juste dire
tu
merci.
Tu sais quand est-ce que
mais
je
derrière,
l'ai dit, c'est quand Walid voulait répondre et que tu l'as dit non, attends, on va.
Et il termine quand même.
Parce que lui, il voulait exister, il disait magnifique, j'adore.
Non, mais il termine quand même avec une injonction à Gilbert Bribois.
En plus,
c'était une balle perdue.
Et l'état
de grâce.
Exactement.
Et après, Nico, bravo ce qu'a dit.
Merci de revenir sur le fond.
Bravo ce qu'a dit Kevin, mais je me mets en désaccord avec lui parce que ce travail.
C'est ça, jingle ça. Je peux dire, je suis en désaccord, tout simplement.
Non, mais ce travail d'adaptation, ce travail d'humilité, factuellement, il le fait depuis une saison réelle. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, on annonçait Kylian Mbappé ailier gauche exclusif par la force des choses, c'est devenu un joueur axial.
Non, mais ça rencontre ça avec Xabi Alonso.
Même avec Carlo Ancelotti. Et là, pour le coup, on peut avoir des critiques à faire sur Kylian Mbappé. On les a fait la saison dernière, mais je n'oublie pas que c'est un joueur qui est venu avec de l'humilité, qui, même si la cohabitation
ça,
n'a pas
vrai.
Été la meilleure avec Vinicius, il l'a fait. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans une continuité. Je veux pas qu'on croit que, à partir du moment où Xabi Alonso est arrivé, en fait, il a été éveillé et s'est dit,
mais
je vais faire ça.
Il a été performant, Elton, mais il sera toujours performant. C'est un joueur incroyable. Mais son équipe n'a pas gagné. Donc, il y a un moment.
C'est pour ça Kevin, pour conclure le débat, qu'est-ce que tu attends de lui, en fait? Jean-Pierre disait à l'instant, en clair, il sera un grand neuf le jour où il sera aussi efficace dans la phase de réparation, le jour où il sera la retombée des centres, où il plantera de la tête également.
Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment un numéro 9, en fait. Non, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais dans une animation un peu hybride, sur l'animation un peu hybride, il peut faire autre chose aussi.
Non, mais sur l'aspect défensif, il a déteint, enfin. Je sais pas si on dit qu'il a avec Vinicius, on avait deux joueurs qui se ressemblaient énormément pendant la Coupe du Monde des clubs et même pendant les matchs contre Arsenal notamment sur l'effort défensif qui frisait le néant. Et Vinicius sans Kylian Mbappé l'année d'avant travaillait énormément pour le collectif et surtout dans cet aspect-là. Le fameux Luis Enrique, la grande phrase « Tu es un joueur exceptionnel, mais ça ne me suffit pas ». Et moi, je pense que c'est sur cet aspect-là. L'humilité, il l'a eu en termes de communication au Real Madrid, en arrivant dans cette institution-là.
Oui, c'est sûr.
Maintenant, moi, je pense qu'il a une vraie démarche positive avec Xabi Alonso. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir la naïveté d'y croire.
Il n'a pas le choix.
Bien évidemment. Mais maintenant, sur l'aspect défensif, c'est pas un match contre Oviedo et contre Mallorca qui va me.
C'est ce que disait Tariq également.
Non, mais sur l'aspect défensif notamment. Moi, j'attends. Et surtout sur le mimétisme, sur les joueurs offensifs créatifs. Moi, c'est les deux grosses questions que j'ai dans le jeu de Kylian Mbappé. Ce mimétisme et le néant défensif.
Il ne faut pas qu'il fasse, pour répondre à Nico et pour finir, il ne faut pas qu'il fasse ce qui est bien pour Kylian Mbappé. Il faut qu'il fasse ce qui est bien pour son équipe, que ce soit l'équipe de France. Exactement. Ou le Real, c'est tout.
Tu avais eu une image à l'époque sur Michael Jordan, sur son apport.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Il l'a plus, c'est pas grave.
Ah, tu l'as plus ?
Non, si,
c'était quoi déjà ? Tu me disais
avec sa rencontre avec Phil Jackson.
Exactement.
Il attaque en triangle.
C'était quoi sa rencontre avec Phil Jackson ?
Bon, en gros, Phil Jackson qui.
Coach mythique des Bulls.
Ouais, qui amène l'attaque en triangle. Michael Jackson, il dit ouais, mais moi, je mets mes 40 points. Et il lui fait comprendre que.
Jackson, il disait
exactement, tu peux mettre moins de points, mais quand même être un champion. Et c'est comme ça qu'il est devenu un champion.
Tout à fait. Eh bien, exactement. C'est ce qu'a utilisé Luis Enrique également.
Hein. Exactement.
Tout à fait. Et dans cet excellent documentaire.
Voilà. Dans cet excellent documentaire, on disait que Michael Jordan, avant d'être le meilleur attaquant, c'était aussi le meilleur défenseur.
Désolé, je t'ai pas donné plus la parole parce qu'on a eu une sorte de récital, là, de cours magistral merveilleux de Kevin Diaz.
Non, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas d'accord avec Kevin Diaz et je le rejoins à 100%.
Ah, ça fait plaisir,
Tariq. Merci, Tariq.
Tariq, bonne
vas-y. Juste pour finir, j'ai un plus beau crâne que toi, Walid.
Ça reste à prouver.
Ouais, ça reste à prouver.
Ouais, parce que quand il sort.
T'as un crâne d'œuf, Tariq ?
Ouais, crâne mi-œuf, mi-ampoule.
Ah ouais, non, mais moi
ouais. T'as une Michael Sylvestre, en fait.
Moi, quand.
C'est ça, exactement, c'est ça.
Oh la balle perdue pour Michael.
C'est une tête d'ampoule, Michael Sylvestre. Merci, Tariq. Moi, bonne soirée.
Quand je sors du coiffeur avec l'eau de Cologne.
De chez le coiffeur.
Parce attention.
Quand tu sors du coiffeur, c'est encore
autre chose. Mais t'aimes ça, l'eau de Cologne ?
Ouais, ouais, ça pique.
À l'ancienne.
C'est pas bon. Ouais, ça permet. Ah, mais ça
sort du barbeur aussi, ou pas ?
Non,
parfois.
Non,
là où Walid est chercheur.
J'ai 31 ans.
Dans un instant, moment important, Hamza Rahmani va entrer dans ce studio, lui aussi est très fort. On va parler des qualifs Zone Afrique pour le Mondial 2026. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal au programme. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
C'est pas encore remis l'avis de Kevin, mais on va accueillir Hamza Rahmani maintenant dans Génération After sur RMC avec Elton Mokolo. Oui, d'ailleurs, chaud. Salut,
bon,
Hamza.
Hamza.
Bonsoir, messieurs.
Ce qui est passé après ça. Salut, Hamza.
Hamza est excellent.
Ah oui. Aussi.
Hamza, tout. On l'a déjà dit.
Je vais le présenter.
Les championnats européens, la Formule 1 et le foot africain. D'ailleurs, vous retrouverez
sud-américain aussi.
Sud-américain, bien sûr. Vous retrouverez Hamza dans le dernier épisode de l'After Afrique qu'on a mis en boîte aujourd'hui, mon cher Hamza, ensemble, consacré au football de l'Afrique de l'Est, hein, qui ne gagne plus depuis quasiment plus de 50 ans en CAN. On pense au Rwanda, Tanzanie, Ouganda notamment, le Soudan du Sud. Et alors qu'on progresse de plus en plus, jusqu'où peut aller peuvent aller ces pays d'Afrique de l'Est. On en a parlé dans l'After Afrique, c'est en ligne. Alors Hamza, important, qualification pour le Mondial 2026, on rappelle, 9 groupes, seuls les premiers sont qualifiés directement. On aura à minima 9 sélections pour ce Mondial 2026.
C'est ça.
Peut-être une 10e sélection, mais il y a un parcours du combattant pour le meilleur 2e de ces 9 groupes. Quelle est l'équipe, la sélection majeure africaine qui est la plus en danger avant ces 7e et 8e journées et 8e journée de qualif pour le mondial?
Il y en a beaucoup. Le Mali et le Nigeria, ils sont en grande difficulté et sauf miracle, n'iront pas à la Coupe du Monde, en tout cas pas
Nigeria.
Directement. En tout cas, pas directement.
Et puis Nigeria d'Eric Schell?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, il vient d'arriver, donc c'est compliqué. C'est ça, il a fait que 2 matchs. Et puis après, il y a 2 gros pays quand même. Il y a les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui sont passés 2e parce que le Gabon a battu les Seychelles 4-0 cet après-midi. La Côte d'Ivoire jouera dans quelques heures face, je sais même plus face à qui, mais en tout cas, surtout, il y aura un match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Ce sera mardi soir, ce sera Franceville au Gabon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon, pour l'instant, les Panthères, ils sont sur un quasiment perfect. Une seule défaite face à la Côte d'Ivoire au match aller. Sinon, ils ont tout gagné. Et les Ivoiriens, inversement, c'est que des victoires.
Burundi, hein.
Pas
Burundi,
de défaite. Ouais. C'est face au Burundi, merci. Et un match nul. Donc, tu te retrouves dans le cas de figure où la Côte d'Ivoire jouera probablement sa qualification mardi au Gabon. Il faudra absolument éviter la défaite. Comme ça, ils conserveront cet avantage avant les 2 dernières journées au mois d'octobre.
Le Gabon avec Aubameyang ou...
Alors, il n'a pas joué aujourd'hui face aux Seychelles. Il était préservé, mais il sera là pour le match face à la Côte d'Ivoire. Okay.
Triplé de Bouanga, tu l'as dit ?
Je pense pas, non.
Triplé de Bonga aujourd'hui face aux Seychelles. Alors, ce sont les Seychelles, effectivement.
Et puis après, il y a un autre gros. Il y a un autre gros pays. J'ai parlé des champions d'Afrique en titre. Et puis, il y a les précédents champions d'Afrique. Et là, je me tourne vers Elton, le Sénégal, qui est dans le groupe de la République démocratique du Congo et du Soudan. Et là, c'est un groupe assez fou parce qu'on a trois pays qui sont séparés par un point. Et le Sénégal qui va jouer les deux gros. Et là, et d'abord le Soudan à domicile, puis le Stade des Martyrs, Kinshasa, la République démocratique du Congo
là,
mardi.
Je peux te dire le match le plus important d'une génération. Ouais. On peut pas faire pire.
Vas-y, non, mais je t'en prie, parce qu'effectivement, c'est un groupe tellement, tellement excitant. Le Soudan, totalement inattendu de les retrouver à ce niveau. Et puis, effectivement, le RDC, qui on rappelle demi-finaliste de la dernière CAN face au Sénégal.
L'excellent Sébastien de Sabre.
Exactement, qu'on avait eu en début d'année dans l'After Afrique. Et effectivement, ce RDC, on sait que le Stade des Martyrs, c'est vraiment un stade compliqué. Le Maroc a galéré lors du barrage de la précédente Coupe du Monde à Kinshasa avant de mettre une valise à l'RDC. Tu te souviens que de l'aller. Mais effectivement, le RDC Sénégal, sincèrement, je pense que s'il y a deux matchs sur les éliminatoires dans le monde à suivre absolument sur cette trêve internationale, c'est moi je dirais le RDC Sénégal et le Gabon Côte d'Ivoire.
Mais le Soudan Sénégal,
qui ira au Sénégal,
ouais, Sénégal le Soudan, et parce que surtout c'est une équipe qui est très chiante à jouer. Ça va être très compliqué. Sénégal qui a amputé aussi d'offensif.
Ismaïla Sarr
pour moi c'est une absence qui va être importante.
En grande forme avec Crystal Palace en plus.
L'état de forme de Nicolas Jackson, conditionnement mental après ce qui s'est passé, l'imbroglio Bayern Chelsea et tout, pour moi ça va être une interrogation.
Bon. Bah, de toute façon, il y a beaucoup d'interrogations avec beaucoup de joueurs, bah, notamment RDC aussi, tous ne jouent pas. Il y a Wan-Bissaka qui va découvrir la sélection congolaise pour la première fois. Il a 27 ans. On refait pas le débat sur les binationaux congolais cet
après-midi. Sans aucun optimisme, on est d'accord.
Hein. Un petit peu, mais au-delà de ça, en fait, découvrir.
Il a vu qu'Alexandre Arnold, les latéraux droits en sélection anglaise, c'est un peu compliqué. Quoi.
Mais quand tu viens de découvrir sur des matchs aussi importants, le contexte du football africain, mieux vaut pas te rater, parce qu'effectivement c'est comme le dit Elton, pour la République démocratique du Congo c'est le match d'une génération.
Mais c'est quand même fou parce qu'avec la nouvelle formule de cette Coupe du Monde,
on croyait qu'il allait y avoir plus d'équipes.
Exactement,
il y aurait tous les favoris
en tout cas tous les gros pour essayer d'avoir beaucoup plus de chances et continuer à progresser dans cette Coupe du Monde et essayer de calquer sur ce qu'a fait le Maroc avec cette demi-finale sur la Coupe du Monde de 2022. Si on commence à avoir avec quatre possibilités supplémentaires, voire même cinq, parce que tu peux avoir
le
barragiste. Ça enverrait quand même un signal plutôt négatif.
Sur
l'homogénéité, mais on racontait une histoire comme quoi le parcours pour aller en Coupe du Monde, c'était le parcours du combattant, c'était Koh Lanta avec les barragistes avec uniquement 5 places. Là, avec les 9, surtout en plus, maintenant, la formule, c'est quoi? C'est aller-retour
c'est un championnat.
Donc, t'as quand même normalement de la marge. Ça doit faciliter les gros.
C'est la composition des groupes qui étaient
facilité les
non
groupes.
C'est juste qu'il y a une densité aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que précédemment il y avait, tu vois, un premier tour qui éliminait plusieurs équipes, parfois un deuxième tour, et il restait parfois que des gros, ou bien tu avais des gros qui se retrouvaient en phase de poule, et puis comme lors de la précédente qualification pour la Coupe du Monde 2022, des barrages, donc pas de qualifié direct, t'étais obligé de passer par les barrages entre géants. Et il faut juste s'apercevoir aujourd'hui que le continent africain dispose, à mes yeux en tout cas, des qualifications les plus relevées au monde, parce que il y a pas de déplacement facile, même si on a des matchs qui se jouent de plus en plus sur terrain neutre, justement à cause de la qualité des infrastructures de certains pays, pour forcer même certains pays à développer justement ces infrastructures, on les force à jouer sur terrain neutre. En attendant, le Mali, le Burkina Faso, pendant des années, ont joué sur terrain neutre. Mais jouer ces matchs-là en Afrique, il n'y a pas de match facile. C'est pas un cliché. Le continent africain, quand tu es ivoirien, algérien, égyptien ou peu importe, quand tu vas faire tes déplacements, tes 10 heures d'avion pour aller te rendre à un endroit, le Cameroun a vécu un calvaire, je crois que c'était lors de la précédente trêve, lorsqu'ils sont allés en Afrique du Sud pour y jouer, je crois que c'était Swatini ou un pays dans ses environs. C'est toujours galère. Parfois, tu as des problèmes de bus, tu fais 4 heures en bus, etc. C'est des conditions auxquelles les footballeurs qui jouent habituellement en Europe ne sont pas habitués. Et ça complexifie la séquence.
Exactement. Et puis, on l'a dit, densité nouvelle, progression. La RDC, on en parlait hier de son groupe. Cap Vert, qui a progressé depuis plusieurs années aussi.
Et même le Soudan.
Le Gabon.
Le Soudan, qui n'a pas de championnat en ce moment. Ouais.
L'Algérie, ça va le faire?
On croise les doigts. Là, ça devient compliqué si tu y vas pas. Mais
c'est quand même leader de le Mozambique.
L'Algérie, t'as 3 points d'avance sur le Mozambique.
3 points d'avance.
Tu joues d'abord face au Botswana, puis tu vas au Maroc, mais pour jouer la Guinée. selon toute vraisemblance,
la Guinée, ça devrait faire. Qui avait gagné à l'aller.
Exactement.
Ouais, mais, oui, mais qui depuis a fait des résultats.
Ouais, et depuis, il y a eu une petite instabilité. Ouais.
Ouais, la Guinée,
bon, et sinon, Walid n'est pas serein quand même.
Ah, non, sinon, je n'étais pas serein après les deux premiers matchs, mais depuis, je suis serein.
Sachez qu'Alban Lafont rejoint donc la Côte d'Ivoire, hein, appelé par Amers Faye, lui qui avait été appelé par Deschamps il y a 4 ans, je crois. Qui est burkinabé également, mais qui a trouvé effectivement un aïeul ivoirien pour rejoindre
la
sélection.
Il a fait un choix sportif entre le Burkina et le Côte d'Ivoire.
Le cœur.
À Côte d'Ivoire ou c'est le ou c'est
Côte d'Ivoire, c'est le cœur.
Il sera titulaire en Côte d'Ivoire parce qu'il y a Fofana.
Il n'a pris aucun but sur ces
quatre. Même à la Côte d'Ivoire, il sera pas dans les.
Il y a Fofana.
Je pense que si Emers l'a appelé, c'est qu'il a une idée à la tête quand même, j'imagine quoi.
La trajectoire de Guillaume Rest.
Tout à fait. Tu crois?
Non, mais la trajectoire de carrière de Guillaume Rest. Par rapport à ce qu'on disait.
Guillaume Rest.
Arrêté l'émission. Excuse-moi, j'ai hésité. Non, mais j'ai confondu les deux.
Bon, excuse-moi. Tu penses que Guillaume Rest va avoir une trajectoire à l'Alban Lafont, c'est ça que tu veux dire ou pas?
Ouais, je suis pas loin de le penser. Ouais.
Ok, on verra ça. Ouais. Merci Hamza.
On comprend le
podcast Culture Afrique est en ligne, bien sûr, écoutez-le. Merci Kevin. Tu as été brillant sur la deuxième heure.
Merci.
Merci Elton.
Par contre, Walid, il est parti.
Merci Walid. L'after à présent jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.